Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio de RDWA, Alex Bringard, Tania Bessem, William Rabas, un trio de mushers qui font partie de l'équipe Chiens de Traîneau Vercors, portée par l'association Au Petit Chapia. Les seuls DIWA qui sont professionnels, qui travaillent sur le plateau du Vercors et qui vont participer au championnat de France de traîneau à chiens qui aura lieu du 14 au 15 février au four dans le Haut-Doubs. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors avant de parler de cette compétition nationale, peut-être pourriez-vous commencer par nous dire qu'est-ce qu'être musher?
Musher, c'est un conducteur de traîneau à chiens. Donc ça vient d'un terme canadien qui vient de marche, parce que le musher avant tout il marche beaucoup derrière ses chiens. Et quand il disait d'avancer à ses chiens au lieu de dire devant, comme nous on fait en France, il disait marche, et avec leur accent et les anglophones, c'est devenu mush. C'est pour ça en disant mush à leurs chiens, on les a appelés des mushers.
Donc en fait, si j'ai bien compris, vous êtes sur le traîneau, vous êtes à côté du traîneau, mais en tout cas vous accompagnez un traîneau tiré par un certain nombre de chiens.
C'est ça, ouais.
Il y en a combien des chiens d'ailleurs?
Bah, il y en a entre 3, 4, 5, 6. Ça dépend de ce qu'on veut faire et puis du poids qu'il y a derrière ou dans le traîneau.
Mais après, pour la compétition qu'on va faire, on est 2 attelages à 6 chiens et un attelage de 12 chiens.
Et je suppose qu'il faut une sacrée coordination. Est-ce qu'ils ont des œillères, les chiens, pour ne pas tirer dans plusieurs sens?
Non. Les chiens n'ont pas d'œillères. Les chiens font ça par plaisir. Les chiens tirent par plaisir et par envie. Les chiens sont dirigés par la voix. C'est une grosse différence qu'on a avec l'équitation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de, reine comme pour diriger un cheval. Les chiens sont vraiment dirigés à la voix, la gauche, la droite, pour pouvoir en fait prendre des directions. D'où l'intérêt de ce qu'on appelle un chien de tête, c'est-à-dire le chien qui est à l'avant sur le traîneau. Et sans chien de tête, on peut être musher, mais on va pas bien loin.
Et le chien de tête en particulier, il a quelque chose de particulier? Il est plus habile que ses congénères?
C'est un chien qui est beaucoup plus obéissant. En fait, dès le plus jeune âge, on retrouve les chiens, on remarque les chiens qui sont à l'écoute et on les éduque à cette fin, c'est-à-dire on les éduque pour pouvoir diriger le traîneau.
C'est un monde très particulier. Combien y a-t-il de mushers professionnels en France?
Mushers professionnels en France, je pense diplômés, il y en a à peu près 120, 125, peut-être 130 personnes qui pratiquent, on va dire, une centaine de personnes. Voilà. Donc il faut savoir, pour être musher professionnel, il faut avoir un diplôme pour ça, un diplôme d'État. Voilà. Mais ensuite, il n'y a pas que des mushers professionnels, il y a aussi des individuels qui ont 3, 4, 5, 10 chiens pour leur propre plaisir, participent à des courses, donc ils ont leur propre chien, ce n'est pas à but professionnel mais à but de loisir, et ils font des compétitions et c'est avec eux qu'on va se frotter donc le 14 et le 15 février prochain.
Alors des gens compétitifs, il y en a combien?
On ne sait pas encore parce que les inscriptions viennent d'être ouvertes. Voilà, mais la compétition, c'est pas le principal de notre travail. Nous, ce qu'on pratique énormément, c'est l'apprentissage de la conduite à traîneau sur le plateau du Vercors. À Bassieux en Vercors.
Et alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un numéro de téléphone, il y a des gens qui vous téléphonent, tiens, je ferai une petite balade avec vous et vous les accompagnez?
Oui, même au-delà de ça, on enseigne la pratique sportive du traîneau à chien. Donc dans ce sens-là, comme tu dis, les gens nous contactent. On réserve une journée avec eux, et à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours, ce qu'on appelle en raid, c'est-à-dire avec on part en autonomie complète et on passe des nuits en refuge, du coup on enseigne cette activité.
Et ça marche bien? Enfin, vous avez de la demande? Il y a beaucoup de gens que cela intéresse, ce type d'activité?
Ouais, parce que bon, déjà on a un site internet qui est assez performant, on a pas mal de publicité, on va dire, comme l'Office du Tourisme, le Conseil Général, etc. Et on a aussi des années d'expérience. Pour ma part, moi, ça fait 25 ans que je pratique cette activité. Donc, on a une clientèle qui nous suit aussi depuis un certain nombre d'années.
À 3, sur la fréquentation l'hiver sur le plateau, on prend à peu près 1000 personnes sur un hiver.
Ah, d'accord. Donc, vous êtes bien occupé, quoi.
Ah oui, oui, on est bien occupé.
On est bien occupé, ouais.
J'ose pas vous demander si vous en vivez, mais si, je vous le demande, vous en vivez ?
On en vit, oui, oui. C'est notre activité principale. Beaucoup de gens pensent que du coup, on travaille que l'hiver et un petit peu l'été, parce qu'il y a aussi des activités qui se passent hors neige. Mais oui, on vit de cette activité. Il faut savoir que même en dehors de la période, je dirais, touristique, il y a tout l'envers du décor où s'occuper des chiens, la gestion de notre mode de chien, là on a 35 chiens, la gestion de notre mode de chien, de les soins, s'occuper des jeunes, des papis, mamies qui sont à la retraite et tout ça, nous prend toute l'année. Il faut savoir qu'on a le statut agricole et nous, le reste de l'année, nous sommes éleveurs.
Voilà, faut nous comparer aussi un petit peu comme un paysan qui va, par exemple, retourner son champ toute l'année, etc., qui va avoir ses cultures, et puis le jour où il gagne de l'argent, c'est le jour où il va vendre ses patates sur le marché. Là, nous, c'est pareil, le moment où on gagne de l'argent, c'est l'hiver pendant l'activité, mais on a tout le travail qui est en amont tout le long de l'année, quoi.
Et bien, alors, revenons un petit peu aux sensations que vous pouvez avoir en... Est-ce que ça se dit en meuchant ? Non ? Ça se dit pas, non.
Ça peut se dire.
Non, mais alors, en tout cas, quelles sont les sensations que vous pouvez proposer, que vous vivez tout en faisant du mushing ? Je sais pas si ça se dit non plus.
Les sensations, elles sont surtout des sensations de glisse, d'accord ? Parce que le traîneau, il glisse. On a des sensations aussi de relation avec l'animal et surtout avec la nature, quoi.
Voilà, il faut savoir que sur toutes les pistes sur lesquelles on va, on est dans des environnements complètement naturels et sauvages, contrairement par exemple à une station de ski ou des environnements plus aménagés. Donc on est vraiment sur des balades en extérieur vierge.
Voilà, on a des pistes damées quand même qui sont damées par le Conseil Général, mais on a aussi des bonnes parties qui sont sauvages en retrace, quoi.
Ça peut aller vite, un traîneau ?
Ah oui, ça peut aller vite. Ça peut même aller très très vite. Après, nous on fait de l'initiation dans le sens où ce qu'on encadre, c'est des débutants. Donc on reste sur des pistes qui sont adaptées à des débutants. On met un nombre de chiens qui est adapté à des débutants. Mais oui, ça peut aller très très vite. Ouais.
Faut savoir qu'à notre métier, on accompagne tout type de public. Les personnes peuvent conduire à partir de l'âge de 9 ans. Et hormis si on n'a pas de problème cardiaque ou si les femmes ne sont pas enceintes, on prend tout type de public, aussi bien des enfants que des adultes, des groupes, ça peut être aussi des personnes handicapées, on prend vraiment beaucoup de gens, quoi.
Et l'intérêt justement du Vercors, du Vercors Sud notamment, le Vercors Dromois, c'est-à-dire toutes ces pistes de traîneaux qui sont autour de Vassieux-en-Vercors, et comme le soulignait William, on a 50 km de pistes damées par le Conseil Général de la Drôme, plus encore 50 km de pistes hors trace, ça nous permet de nous adapter à tous les publics. Et c'est ce qui attire aussi les mûcheurs extérieurs, parce qu'il faut savoir aussi que le Vercors Sud, c'est vraiment l'espace d'entraînement de beaucoup de compétiteurs français et internationaux. On a fréquemment, on a des compétiteurs étrangers, italiens, espagnols, allemands, qui viennent s'entraîner en France, à Vassieux-en-Vercors, pour préparer des compétitions internationales.
Oui, hors micro, tout à l'heure, Tania disait que le Vercors était mythique pour les mûcheurs.
Oui, oui, tout à fait, parce que c'est le seul endroit où on peut s'entraîner sur plus de 80 km de piste damée, en fait. Cette qualité-là de piste, on ne la trouve nulle part ailleurs en France. Il faut aller dans les pays nordiques, en Suède ou en Finlande pour retrouver ça.
Sur la banquise ?
Sur ce qu'il y a de la banquise.
Et ce qui est assez méconnu de la population d'Ivoise, c'est que tous ces espaces où on se déplace en traîneau font partie pour beaucoup de la commune de Die. C'est-à-dire que toute la forêt de Vassieux, qui est au sud de Vassieux jusqu'au contrefort du Vercors, appartient à la commune de Die et à Marignac.
Je voudrais revenir quand même, par exemple, je me situerais comme un client éventuel. Je vous téléphone, qu'est-ce que je fais avec vous ? Je m'assois sur le traîneau ou je cours à côté ? Est-ce que, par exemple, des enfants peuvent être sur le traîneau ? Comment ça se passe, en fait ?
Oui, alors, par exemple, si Louis, tu veux venir faire du traîneau, non, toi, tu vas conduire le traîneau, d'accord ? On va t'enseigner la manière de conduire le traîneau, c'est-à-dire que tu auras ton attelage avec entre 3 ou 5 chiens. Bon, toi, tu auras 3 chiens. Tu auras 3 chiens parce que tu es léger. Après, les enfants qu'on emmène, l'activité commence en général à partir de 9-10 ans. Plus jeune, Les enfants sont assis dans le traîneau. Par contre, ils sont assis dans notre traîneau, parce que nous, on est censé savoir conduire un traîneau. Voilà. Et elle commence quand même à partir de 5-6 ans, parce que pour des histoires de froid, eh ben, on n'attaque pas l'activité plutôt pour les jeunes, parce que des fois, eh ben, parce que des fois, ils ont du mal à s'exprimer sur le fait qu'ils aient froid.
Vous commencez pas à 7h du matin ?
On commence pas à 7h du matin, non. Pour la demi-journée, les activités sont de 10h à midi, de 14h à 16h. Et lorsqu'on part à la journée, c'est 10h à 16h. Voilà. On a un moment avant où on parle de théorie, d'accord ? Et après, où on part en traîneau. Et là, c'est toi qui conduis ton traîneau.
Parce que vous avez des traîneaux qui accompagnent les gens qui ont leur propre traîneau, c'est ça ?
Bah après, en fait, quand on vous accueille, on fait de la théorie. C'est-à-dire qu'on vous apprend à conduire en théorie le traîneau. On vous explique comment ça fonctionne. Ensuite, chaque personne a son propre attelage avec un nombre de chiens adapté à sa morphologie. Ensuite, après le musher, une fois que tout est installé au moment de partir, le musher part en premier, en tête. Et donc, les personnes qui l'accompagnent sont derrière avec leur propre attelage. Ils se suivent à la queue leu leu. Voilà. Un peu comme un cours de ski où chaque personne a sa paire de skis et le moniteur, il est là pour expliquer comment ça fonctionne et comment il faut faire pour déraper, tourner, etc.
C'est compliqué alors ?
C'est moins compliqué que le ski. En une petite demi-heure, on a vite compris comment ça fonctionnait. Et donc, c'est pas comme le ski où il va falloir vraiment beaucoup d'heures de pratique pour commencer à se faire plaisir. Voilà.
Et des difficultés particulières, le fait, de, par exemple, de tourner, c'est facile, de freiner, c'est facile, de monter des bosses, de descendre des pentes.
C'est une technique de conduite. Après, la finesse de ce travail-là, c'est aussi d'avoir une meute adaptée à son travail et de bien composer ses attelages. Donc nous, on a un type de chien qui est là maintenant aujourd'hui suite à un long travail commencé depuis plusieurs années, notamment par toi, Willy et Alex, qui ont commencé ça depuis longtemps. Et du coup, on est arrivé à un type de chien qui est plus adapté au travail qu'on fait, c'est-à-dire qui est endurant, qui a un poil plus court. On a des chiens Alaskan, on n'a pas de chiens type groenlandais ou malamute, des chiens nordiques. Ça, on a plus ce type de chiens-là parce qu'ils sont plus adaptés au climat, qui est beaucoup plus chaud maintenant. Et c'est aussi des chiens qui sont endurants, faits pour la piste d'amée, et puis qui sont proches de l'homme et gentils. C'est des chiens affectueux et aussi bons pour la compétition.
Quand on parle de chiens de traîneau, on pense tout de suite au husky, non ? C'est pas cela ?
C'est vrai que dans l'imaginaire des gens, le traîneau, c'est avec des chiens nordiques. Voilà. Faut savoir que c'est pas tout à fait le style de chien qu'on a. En fait, nous, on a des croisements. C'est-à-dire que les chiens ont une origine nordique. Mais comme le disait Tania, en fait, on a établi des croisements qui nous permettent d'avoir des chiens qui sont beaucoup plus performants en termes d'endurance et de vitesse. Des chiens qui soient moins fugueurs, moins bagarreurs, qui ont moins le côté, je dirais, le comportement rustique qu'on a chez le chien nordique et qui, du coup, est à la fois adapté à notre activité, adapté au fait que nous habitons à Die et qu'il y a quand même un climat estival qui fait quand même chaud, et surtout adapté à notre tempérament. C'est-à-dire que ce type de chien est vraiment adapté au comportement du musher et ce qu'on attend nous de notre activité avec en termes d'initiation avec les gens.
Alors vous parlez des chiens, ce qui est effectivement important, mais et le traîneau, qu'a-t-il de particulier ? Est-il lourd ?
Alors le traîneau qu'on utilise pour l'initiation avec les gens qu'on encadre, c'est des traîneaux plutôt traditionnels. Ils sont en bois, assez rigides. Hein. Donc ils sont constitués de deux patins qui servent de ski au traîneau. C'est l'endroit où on va mettre les pieds. Il y a un guidon, hein. Un guidon qui n'a rien à voir avec un guidon de vélo. Hein. C'est une barre en bois, voilà, où on va mettre les mains. Et puis il est équipé de deux freins pour ralentir, hein, qui servent vraiment à ralentir, qui est le tapis de freinage. Et l'autre qui est une mâchoire en ferraille qui sert vraiment à stopper les chiens ou à les freiner fortement. Voilà, donc les chiens sont attachés au traîneau grâce à ce qu'on appelle une ligne de trait. Hein, donc c'est un cordage où les chiens sont attachés avec un harnais aussi. Ils sont harnachés, hein, et ils tractent le traîneau grâce à ce harnais qui est adapté à sa morphologie. Et nous, par contre, en compétition, on a d'autres types de traîneaux qui sont beaucoup plus souples, qui sont faits soit d'aluminium, de mélange de carbone, de fibre de verre. Voilà. Pourquoi plus souple ? Eh bien, tout simplement pour prendre des meilleures courbes. C'est un traîneau qu'on ne peut pas donner aux gens qu'on encadre parce que c'est trop souple et du coup il aurait tendance à tomber trop rapidement, hein. Mais nous, comme on sait conduire d'un traîneau depuis longtemps, voilà, donc il a cette souplesse, ça nous permet de moins déraper dans les virages. Moins on dérape, plus on va vite.
Vous vous penchez.
Voilà, on se penche, hein, on se penche, et moins on dérape, plus on va vite, et moins ça se répercute aussi sur les chiens. Voilà.
Parce qu'il peut y avoir des à-coups, non ?
Normalement, quand on sait conduire un traîneau, on fait peu d'à-coups ou pas, notamment dans le freinage. hein, dans les virages, mais aussi quand on, ce qu'on appelle le pédalage. Le pédalage, c'est au moment où on aide les chiens, c'est-à-dire dans les montées. On aide les chiens en pédalant comme une trottinette, voilà, avec un pied, le droit ou le gauche, comme on veut. Dans des raidillons un peu plus forts, il se peut qu'on soit obligé de courir derrière, voilà. Mais généralement, c'est du pédalage qui s'accompagne au rythme des chiens, quoi, voilà.
Tu as parlé de plaisir tout à l'heure pour les chiens. Ils prennent du plaisir. L'encolure en question ne leur fait pas mal, etc.
Alors, c'est pas une encolure, ça s'appelle un harnais. Voilà. Donc, les harnais sont adaptés à la morphologie du chien pour pas qu'il se fasse mal quand il va tracter. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de harnais suivant le type du chien, suivant de sa morphologie. Hein. Donc, on a tout un panache de tailles différentes et de harnais différents pour que le chien il soit à l'aise au niveau du travail.
Les chiens sont très motivés pour aller faire du traîneau.
Ils aiment bien ça, quoi.
Ils adorent ça. Ouais.
Le matin, ils ont qu'une envie, c'est de sortir des parcs pour rentrer à la remorque et puis aller courir ensuite et tirer des traîneaux. Il est content aussi le soir, après sa journée de travail, de rentrer à la maison et de manger, ça c'est sûr. À chaque départ, c'est l'euphorie. Hein, donc les chiens sautent en l'air.
Ils hurlent, ils aboient.
Ils lâchent énormément d'énergie au départ parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de partir et de galoper et de découvrir cette nature, quoi.
On ne peut pas obliger un chien à tirer. Il le fait vraiment par envie, par plaisir. Et en fait, on sélectionne les chiens au niveau de la reproduction, au niveau de notre meute, qui ont le plus d'envie en fait, de tirer.
Ils sont capables de tirer un traîneau pendant combien de temps ?
Le temps et les kilomètres qu'on peut faire avec un attelage est vraiment différent par rapport à...
Il va varier en fonction des conditions
météorologiques,
des conditions du chien, du poids du traîneau, de la glisse. Il y a énormément de paramètres.
Voilà. Donc, plus il va faire froid, plus le chien va être en forme. Hein, il subira. Parce que plus il fait chaud, plus il subit la chaleur. Donc, du coup, il va être moins performant. Plus il va faire froid, plus il va être performant. Plus il va faire froid, mieux la neige va glisser. Et plus on va aller loin et vite, quoi. Voilà.
Ceci dit, à une journée classique.
Avec des clients.
Oui, par exemple.
Dans une journée, on arrive à faire entre 25 et 40 km suivant les conditions météorologiques. Voilà.
C'est pas négligeable.
C'est pas négligeable.
Parce que le traîneau, il fait combien de kilos à peu près ?
Ouais, il fait une douzaine de kilos.
Et il y a quand même quelqu'un dessus, peut-être.
Plus quelqu'un dessus. Mais il faut savoir que si le total traîneau-personne fait 100 kilos, le chien ne tire pas 100 kilos. Voilà. Surtout sur le plat et les descentes, l'ensemble des chiens vont tirer à peu près 5 kilos. Quoi. Il n'y a que dans les montées, avec le pourcentage de pente et le poids qu'il a tiré, voilà. Mais jamais il tirera les 100 kilos. Hein, avec l'inertie, c'est comme quand vous faites du vélo. Le premier coup de pédale, il est dur, mais après, ça part tout seul et hop, on pédale et c'est pas plus difficile que ça, quoi. Alors, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs races de chiens de traîneau et nous, les deux qu'on a, c'est surtout de l'Alaskan. Donc, c'est un chien qui vient d'Alaska, qui a été créé par des Indiens d'Alaska, qui est un mélange de chiens indiens avec du loup et du coyote. Et à ça, maintenant, en Europe, on a fait une nouvelle race. Enfin, c'est pas nous, hein, c'est les Scandinaves qui ont créé cette race, et les Allemands. Ça s'appelle l'European Hound. Donc, c'est un croisement d'Alaskan et de chiens de chasse type braque et pointer. Alors, nous, pourquoi on est venu à ce type de chien ? C'est surtout par rapport au climat, hein, c'est-à-dire à nos climats chauds. Et puis aussi parce que ce sont des chiens performants, aussi bien pour notre activité et pour la compétition. Voilà. Donc nous, on a opté sur des chiens type comme ça parce qu'ils ont le poil court et qu'ils sont plus adaptés à notre climat où on a maintenant de plus en plus d'hiver, entre guillemets, chaud, quoi.
Oui, j'osais pas vous poser cette question, mais avec ce réchauffement climatique, vous êtes mal barré, hein, s'il y a de moins en moins de neige sur le Vercors, non ?
On sait pas, on verra.
Je veux pas spéculer, hein.
Pour l'instant, des années chaudes comme ça, il y en a eu d'autres, la neige va sans doute arriver.
Et justement, votre période d'activité, elle dure combien de temps à peu près ? 3 mois, 4 mois, 5 mois ?
On va dire on attaque début décembre, l'activité forte elle attaque mi-décembre et on finit fin mars et s'il y a encore de la neige après, hein, c'est pas rare qu'on ait de la neige en avril, même jusqu'à début mai, ça nous arrive de faire du traîneau même pour nous s'il n'y a plus de gens qui viennent participer à l'activité, quoi.
Et quel est votre public ? Quels sont les gens intéressés par cette activité ?
Ah bah là on touche vraiment tout public dans le sens où on a beaucoup de particuliers, les familles. Voilà, donc des adultes, des enfants, on en parlait. Il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec les centres de vacances, les colonies de vacances, également avec les publics handicapés. Et aussi, on travaille beaucoup avec des éducateurs spécialisés pour des publics dits difficiles. Voilà.
Si je fais un calcul, vous m'aviez dit tout à l'heure, 35 chiens, c'est ça ?
Oui.
Ça fait combien d'attelages ?
Ben ça en fait 5 ou 6, quoi.
Oui, voilà. Ouais.
5 ou 6 attelages. Dans la même journée, vous pouvez avoir 5 ou 6 clients, c'est tout.
Oui.
Plus il vous en faut à vous. Donc, en fait, par journée effective, vous avez 2, 3 clients, 4, 3 clients.
Entre 4 et 6, quoi. Voilà, ça dépend.
Oui, parce qu'il y a des demi-journées.
Voilà.
Et puis, dernière petite question, avant de passer peut-être au championnat de France. Est-ce que c'est pas un désavantage pour vous d'être les seuls mûcheurs professionnels du Vercors d'Iwa? Donc, ça veut dire que tous les jours, si vous êtes basé ici, vous devez monter avec votre voiture et redescendre le soir?
On a passé quelques saisons avant où on restait sur le plateau. Et lorsqu'on a eu des saisons où ça manquait de neige, et ben du coup c'était difficile pour nous à la fois de rester là-haut avec les chiens, d'avoir la maison en bas. Du coup non, c'est quand même plus intéressant maintenant pour nous de pouvoir faire le trajet tous les jours, parce que les chiens comme ça nous permet de bien nous en occuper. Ils sont dans le milieu dans lequel ils sont toute l'année, ça c'est très important. Ça leur permet d'être au chenil, chez eux, dans le milieu où ils sont à l'aise. Et en fait, ce qui est très important pour les chiens, quand on parlait de cette envie de tirer, il faut savoir que les chiens, ça se joue sur plusieurs choses. Ça se joue sur les temps de repos, et ça se joue sur la nourriture, et ça se joue sur, bien sûr, la relation qu'on a avec eux. Et du coup, comme nous, le reste de l'année, on habite à Die, les chiens, ils sont comme nous, ils rentrent chez eux, et c'est leur maison, et puis voilà.
Surtout que vous êtes bien situé à Chapia, c'est magnifique comme endroit.
En fait, les chiens, ils vivent ce qu'on appelle un chenil. Le chenil qu'on a n'a rien à voir avec un chenil conventionnel, on va dire, de SPA, où ils sont un ou deux par cage, enfermés dans des cages. Nous, on a opté sur des parcs assez spacieux. Ils sont entre 6 et 8 par parc, en semi-liberté. Voilà. Et avec ces plusieurs petits parcs, enfin, voilà, il y a un énorme parc qui fait que tous les jours, on les lâche tous ensemble pour qu'ils puissent avoir une relation de meute et puis qu'ils puissent se défouler sur un plus grand nombre de mètres carrés.
Oui, mais alors, quand vous les mettez dans le même parc, comment gérez-vous la sélection? Vous me dites que vous faites de la sélection des meilleurs. Là, ils peuvent leur arriver de fricoter sans que vous ayez quelque chose à dire?
Non. Là, on est plus sur le métier d'éleveur. C'est-à-dire, eh ben, qu'au niveau de la reproduction, oui, comme tu dis, eh ben, on sélectionne les plus performants ou même simplement par affinité au niveau du comportement du chien, les chiens que l'on va faire reproduire. Simplement, on a un parc de chiens en chaleur pour pouvoir isoler les femelles en chaleur. Et lorsque, en fait, eh ben, on souhaite avoir des chiots, eh ben, simplement, tu veux que je te fasse un dessin? Non, on prend une chienne en chaleur, les talons qu'on a choisis, et puis voilà. En fait, ce qui n'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde, c'est que la difficulté sur une meute de chien, c'est vraiment d'avoir une pyramide des âges qui est équilibrée, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a les chiens de travail, qui sont adultes, qui sont en âge de travailler, et il y a aussi les jeunes, et il y a aussi, surtout, eh ben, les chiens qui sont à la retraite. Voilà, donc dans l'envers du décor, tout ce qu'on voit pas, c'est tout le travail qu'on a au niveau de l'éducation des chiots. Et puis d'ailleurs souvent, et ben les chiots, on les met avec les anciens comme ça, et ben ils les éduquent aussi de leur côté. Mais du coup, tout ça est géré, tout ça est réfléchi. Non, c'est pas tous les chiens sont ensemble et dès que ça fricote, il se passe n'importe quoi. Tout ça est vraiment géré. Sinon, on ne pourrait pas avoir une activité comme ça performante et une meute performante.
Pour aérer ce sujet qui est dense, je vous propose d'écouter une superbe chanson qui n'a strictement rien à voir, à savoir Country Road par Adam Green.
Back in the summer of 91, an angel with a lizard's tongue was scheming for a wholly broken nose. Late to every class of men, sprung out from the sparkling sands, leaning on the cold electric stove. On a country road I swerved to the side, trying to avoid a country bumpkin. Everyone's in line to meet with the man who blatantly inspired his generation. When they shake his hand and their fingers explode, breaking both our necks by the tips of our toes, then they turn to me, 'cause you died, I suppose. But I can't seem to glance fast enough to be sure. Back to summer days, cold hands on the beach, memories of thrills designed to please you. Down the fragrant path I stray towards the bath, suddenly I live to learn to feed you. Down on bended knee, where I've been for a while, set the record straight in the old-fashioned style. Never took too much, though I should have made more. You are still my friend, though you were not before.
Vous êtes toujours sur RDWA, sur 107.5 FM et www.rdwa.fr avec Alex Bringard, Tania Bezem, William Rabas, et nous parlons de chiens de traîneau et du championnat de France qui va avoir lieu du 14 au 15 février dans le Haut-Doubs. Alors donc on a dit le 14 et 15 février, vous allez participer, si j'ai bien compris, la seule équipe de trois traîneaux à cette compétition, au championnat de France qui aura lieu dans le Haut-Doubs. C'est un honneur, vous le prenez comme ça. Comment vous vivez cette expérience ?
Ah ben on la vit, pour l'instant on la vit plutôt bien. Oui oui, bah nous on est très fiers de ça. On est surtout très fiers de s'être constitués en équipe, même si tous les trois ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble et que on a chacun une expérience compétitive chacun de notre côté. L'intérêt là c'est de monter une équipe ensemble, de mettre des moyens ensemble, et faut quand même savoir que on constitue la seule équipe de mushers en compétition de France. C'est-à-dire que ça existe à l'étranger, notamment dans les pays du nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, et puis au Canada et en Alaska, où là, bah, c'est, faut savoir qu'en Alaska et dans les pays scandinaves, c'est un peu comme le foot en France, hein, où les mushers en compétition souvent, se constituent en équipe, mais ça n'existe pas en France. Voilà. On est la première équipe à essayer de mettre des moyens ensemble, des expériences. Et puis, il faut savoir que sur la compétition, ce dont on se rend pas compte, c'est que là, tu as trois mushers devant toi. Mais derrière, il y a la sélection sur les 35 chiens qu'on a. Et surtout, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont là pour nous aider. Le musher en soi seul ne peut rien faire. Ça demande une logistique sur une compétition qui est très, très, très importante en termes de soins des chiens. Alors nous, je sais pas si on peut dire qu'on est des athlètes, mais au moins on est sportif. Mais ce qui est sûr, c'est que les chiens sont des athlètes. Et c'est-à-dire que la compétition, il faut imaginer que les chiens, après la compétition, après l'étape, on a à peu près 2-3 heures de massage pour tous les chiens. Les soins des pattes, la nutrition, l'hydratation. Du coup, en fait, il y a toute une équipe derrière qui est, comme souvent sur une équipe sportive, qui est dans l'ombre, qui va nous permettre, en fait, et c'est là, dans ce sens-là où on est fiers, qui va nous permettre de pouvoir faire cette compétition à trois. Faut savoir que si on y arrive, et nous allons y arriver, au four, donc, sur le massif du Jura, dans le Haut-Doubs, on va monter à peu près à une vingtaine.
Comme disait Alex, donc il y a une équipe de chiens, donc il y aura 20 chiens sur le départ de la course. Donc il faut une grosse logistique derrière, comme il disait, avec plein de gens. Donc ces gens-là qui vont nous aider, on appelle ça des handlers. Donc voilà, on a chacun notre handler, plus d'autres personnes à côté qui seront des bénévoles, qui vont nous donner la main pour s'occuper des chiens, donc les nourrir, les sortir, les masser, etc. Donc les chiens qu'on va utiliser pour cette compète, c'est une sélection qu'on a fait depuis des années. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Bon, on a fait des croisements en fait avec les chiens des meilleurs du monde. Hein, on est allé dans des élevages en Scandinavie et en Allemagne pour faire des croisements avec nos chiens qu'on avait et pour donner le type de chiens qu'on a à l'heure d'aujourd'hui qui vont courir donc le 14 et le 15 février.
En quoi ça consiste cette compétition ? Vous avez donc un parcours imposé ?
C'est ça, on a un parcours à poser. En fait, c'est pas compliqué, hein. Ça se passe sur deux étapes de 40 km, d'accord ? Donc nous allons faire 80 km. Et en fait, c'est un départ toutes les deux minutes. Voilà. Et c'est au chrono. Mais c'est au chrono bien sur les deux jours, on est d'accord.
Ça vous arrive de vous dépasser ?
Carrément.
Mmh. Deux minutes, c'est pas grand-chose ?
Non.
Les pistes permettent un dépassement
Oui, oui, carrément. Oui, oui. C'est damé par une dameuse donc traditionnelle. Je crois que ça fait 4 mètres de large, un truc comme ça. Mmh. Donc il y a largement la place de se doubler.
Oui, donc en fait, sur toute l'équipe qui nous soutient pour la course, il faut compter les handlers. Donc, comme l'a dit Alex donc y a, et Willy, un handler par coureur. Il y a aussi toute une équipe qui va rester sur place pour s'occuper des chiens qui restent, parce qu'on ne prend pas tous les chiens. Et puis, il y a également des gens qui vont venir pour nous soutenir sur la course. Et toute une équipe de communication qui a déjà commencé à communiquer sur la course et sur les événements qu'on va organiser autour.
Voilà. Alors, vous n'avez pas à vous plaindre de ce côté-là ? Vous avez toute cette équipe qui est derrière vous, qui vous soutient ?
Oui, on est bien, bien entouré, on est très poussé en avant.
Ça crée une dynamique. C'est vraiment ce qui nous attire ici aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à créer une équipe entraîneau avec tout ce que ça sous-entend derrière. Dans le sens où, où vraiment, nous trois tout seuls, bon déjà, on ne peut rien faire. Nous trois, avec les chiens, on ne fait pas grand-chose. Mais avec tout ce monde-là derrière, ça crée ce qu'on appelle un cercle vertueux qui fait que lorsqu'on va être dans la course, on ne court pas que pour nous. C'est-à-dire qu'il y a du monde derrière. Il y a du monde devant, c'est les chiens, et il y a du monde derrière nous.
Et alors de là-bas, vous donnerez des nouvelles pour savoir qui est en tête, etc. Y aura-t-il un service de tweet Facebook ?
On y pense.
Parce que vous avez une page Facebook quand même.
Ouais, on a une page Facebook qui s'appelle Chien de traîneau Vercors. Voilà. Et on a aussi un site internet. Donc sur la page Facebook, pour l'instant, on a annoncé la course. Et puis sur la page Facebook, je pense qu'on tiendra au courant, informé des avancées spectaculaires.
Déjà la page Facebook depuis pas mal de mois met en valeur notre activité, mais aussi tout ce qui se passe autour de notre activité. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent voir un peu des informations, ils peuvent voir aussi la vie de chenille, ils peuvent voir la vie de meute, ils peuvent voir un peu l'envers du décor et pas forcément que lorsqu'on est dans notre belle doudoune avec nos beaux chiens sur la neige, mais tout ce qui se passe avant et après.
Alors qu'est-ce qui fait la différence entre un traîneau qui carbure et un autre qui se fait dépasser ?
Alors ça, c'est déjà, on va pas donner tous nos secrets à la radio, parce que les concurrents nous écoutent. Faut savoir que là, on parle d'une compétition sportive avec des animaux et il y a des milliers de facteurs qui rentrent en compte. Je dirais que le facteur principal, c'est vraiment la relation entre le musher et ses chiens. C'est pour ça qu'on court, déjà. Et que s'il n'y a pas ça, enfin, on peut être un très très bon sportif, aimer les chiens, aimer le traîneau, on peut avoir des très très bons chiens. S'il n'y a pas les deux, et puis s'il n'y a pas une petite étincelle entre les deux, ça peut pas marcher. C'est ça qui fait la différence. Les meilleurs mushers au monde, c'est des mushers qui sélectionnent leurs chiens, qui ont des très bons chiens, qui sont sportifs, mais c'est des mushers surtout qui passent beaucoup, 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 beaucoup de temps avec leurs chiens.
C'est une symbiose. Homme-animal.
Ouais.
Bah, c'est une équipe aussi avec les chiens, quoi. C'est surtout ça qui est important.
Et alors, vous vous sentez prêt ? Est-ce que vous avez bon espoir ?
Ah oui, carrément, on est à fond.
Est-ce que vous êtes les meilleurs ?
Bien sûr.
C'est bien.
Non, et puis,
non mais on le sait.
Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce championnat de France ?
Au championnat de France, non, c'est pas la première fois. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2009 et j'ai été champion de France, voilà, donc premier. Et c'est pas la seule compétition que j'ai fait, hein, j'en ai fait d'autres, mais Alex, tu y as déjà participé aussi.
Voilà, moi j'ai fait pareil, les championnats de France de mi-distance, c'était au même endroit, et donc c'était en 2013. Voilà, j'ai terminé second, donc vice-champion de France, et j'ai enchaîné sur deux courses qui sont des trophées, là sur la grande course qu'il y avait dans les Alpes, la Grande Odyssée, où j'ai fait second sur les deux autres aussi. Bon, on a déjà quand même quelques atouts individuellement de notre côté. Maintenant qu'on est en équipe, je pense qu'on a toutes nos chances. Et voilà.
Et puis, quant à moi, j'espère avoir la chance du débutant.
Non, mais c'est bien parce que là, il y a une dans cette équipe, non seulement on a les chiens qui sont mélangés pour les trois, nos expériences qui sont mélangées pour les trois, et puis il y en a qui ont un peu d'expérience, et puis d'autres qui arrivent et qui vont faire leurs preuves et puis faire leurs armes sur cette première compétition pour eux, quoi.
Mais est-ce que c'est un plus d'être en équipe ?
Oui, carrément, je pense au niveau soutien, au niveau pour donner des consignes et des petits trucs qui vont faire le petit plus qui va faire gagner, ne serait-ce que des fois, si ça peut faire gagner 10 secondes, c'est toujours ça, quoi.
Et alors, quand on parlait de matériel, tu m'as dit que effectivement, c'était des traîneaux différents. Est-ce que les équipes ont le droit de fabriquer leur propre matériel ou c'est un matériel standardisé ?
Bien sûr, tu peux fabriquer ton propre traîneau, sauf qu'il y a des choses qui sont impératives, quoi. Donc une encre à neige, c'est obligatoire, c'est le frein à main du traîneau, donc ça c'est obligatoire, le frein aussi. Il faut qu'il y ait un arceau de sécurité devant le traîneau, voilà, au cas où si tu tamponnes un chien ou si tu tamponnes un arbre. Donc c'est le pare-choc du traîneau. Et puis il faut obligatoirement avoir un sac à chien. Ce qu'on appelle un sac à chien, c'est le sac qui va être sur le traîneau, qui va nous permettre de mettre un chien s'il est blessé. C'est-à-dire que pendant la compétition, si on a un chien qui est fatigué ou blessé, on n'a pas le droit de l'abandonner. C'est normal. Hein. C'est notre ami, il est là, voilà. Et donc on le charge dans le traîneau.
Au lieu d'en avoir 12, on n'a plus qu'11.
C'est ce qui m'est arrivé au dernier championnat de France, c'est qu'en fait j'ai eu un chien qui a craqué, donc qui était fatigué. Du coup, je suis arrivé premier, malgré que j'ai que 5 chiens par rapport à l'autre concurrent, et que j'avais du poids en plus parce que j'avais le chien dans mon traîneau.
T'avais poussé ce jour-là, je me rappelle.
Eh oui.
Ça peut arriver qu'un chien craque alors ?
Oui, bien sûr, ce sont des athlètes, donc il faut savoir que, comme tout athlète, même si on les prépare pour ce jour J, hein, la course, généralement quand on fait de la compétition, on ne peut pas en faire 50 dans la saison, on va en faire 2 ou 3, mais il y en a une qu'on va sélectionner vraiment, qu'on va se dire, celle-là je vais être premier. Donc voilà, c'est là que je vais être performant, c'est là que je vais arriver premier. Donc on s'entraîne pour ça. Et il se peut que le chien, ça va un peu trop vite pour lui. Il suffit pas de grand chose, hein. Il suffit que sur une plaque de neige ou une plaque de glace, il glisse et puis il se fasse un peu mal. On n'est pas à l'abri d'une entorse, hein, comme pour nous aussi. Donc du coup, le chien, si on voit qu'il est pas bien, on le charge, voilà.
Puis c'est comme nous, s'il suffit que ça soit pas son jour.
Bah ouais, et puis ça peut être nous aussi. Hein, on peut être pas dans le bon jour, quoi.
Alors, j'imagine que pour faire participer dans le Haut-Doubs, 3 équipages, 35 chiens, ça doit être un sacré budget. Même si vous avez un comité de soutien, vous avez des sponsors ?
Pour l'instant, on est à la recherche de sponsors, voilà. Donc, on est en train de mettre quelques actions en place. Après, ce qui est surtout important, c'est qu'en fait, c'est un week-end où on devrait travailler ou on ne travaille pas. Voilà, donc on va faire cette course, mais on va avoir un manque à gagner. Donc après, l'inscription à la course, c'est pas faramineux, ça va pas chercher très loin. Bon, il y a tout le transport, tout le monde qui nous accompagne, etc., assuré. Et puis après, il y a ces 2 jours où on ne travaille pas, où là, c'est un manque à gagner. Voilà.
C'est surtout ce qui va être important sur ces 2 jours-là, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire avant, c'est qu'il y a plein de gens qui sont derrière nous. Et on aimerait bien qu'il y ait encore plus de monde encore qui soit derrière nous, même s'ils ne viennent pas sur la course, mais qui pensent à nous quand on sera là-bas. Et donc, nous, ce qu'on veut faire aussi, c'est amener le Diwa au Doubs pour qu'on gagne cette course le 14-15 février.
Alors, que peut-on faire pour vous soutenir encore plus alors ? Quelle est votre demande ? Comment faire en sorte d'accoquiner toute la population du Diwa derrière votre étendard ?
Là, on a mis en place une plaquette, en fait, qu'on va distribuer un petit peu à la population. D'une part, pour informer qu'on va faire cette course au nom du Diwa, quoi. On s'affiche en tant qu'équipe diwaise, voilà. Et puis après, on va chercher quelques soutiens financiers de tous ceux qui veulent bien nous aider. Il va y avoir des actions un peu sur le marché. On va se montrer un petit peu. On va pas mal discuter avec les particuliers, avec les commerçants aussi, les élus, le conseil général. Enfin, voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on est en train de faire actuellement.
Néanmoins, quand bien même vous n'auriez point de soutien supplémentaire, vous êtes parti.
Oui, on est parti.
Là, on s'arrête plus.
Là, on est parti dans tous les cas. Ouais. L'idée, c'est de faire connaître l'équipe d'Iwaz. Voilà. Bon, là, c'est pour les championnats de France, mais après, maintenant qu'on a créé l'équipe, on a des objectifs à plus long terme. Enfin, voilà, on ne va pas faire que les championnats de France.
D'accord. Vous allez continuer sur d'autres compétitions ?
Oui, bien sûr. Là, c'est pour la saison 2015. Il y a une autre course à la fin de la saison, là, autour du 15 mars. Mais pour l'instant, on ne sait pas si on va pouvoir la faire dans le sens où les inscriptions ne sont pas ouvertes. Et on ne sait pas encore si on va être sélectionné. Mais pour l'année prochaine, sans aller trop dans le détail, on pense pouvoir faire des courses à l'étranger également.
Surtout la Scandinavie, la Suède, Norvège.
La Finlande.
Et exporter le Diwa.
Disons que c'est vraiment une aventure qu'on a envie de faire partager par les habitants du Diwa parce qu'on s'est aussi aperçu que le chien de traîneau n'était pas forcément connu par les gens d'ici. C'est pas forcément une activité, un sport qui est très connu ici, quoi.
Et ça vient avec le temps ?
Peut-être qu'on n'en parle pas assez, peut-être que, mais du coup, une action comme ça peut aussi permettre de faire connaître à tous cette activité-là qui se passe au-dessus de Die, quoi.
Oui, puis qui se passe du coup, oui, au-dessus de Die et à Die, puisque c'est quand même les territoires d'Iwa. Et puis que le Die fait partie du parc naturel régional du Vercors et que ça fait partie de la culture locale. Après, c'est plus une culture qui est sur le plateau, mais qui est quand même... ça se passe à Die, tout ça. Hein.
Et malgré tout, c'est quand même une activité saine dans le sens où hormis le transport, on ne crée pas de pollution. Hein, voilà, ce sont les chiens, nous, la nature. Voilà.
Il n'y a pas d'aménagement de territoire, d'environnement supplémentaire pour faire cette activité-là. Et en plus, sur le plateau, c'est un gros atout touristique qui commence vraiment à prendre une belle ampleur.
Oui, parce que la plupart de notre clientèle n'est pas forcément de Die ou des alentours. Elle vient aussi bien de Lyon, de Paris, de Bretagne. Donc ce sont des gens qui viennent aussi dormir dans nos structures, qui viennent manger dans nos restaurants, etc. Donc, et ça permet aussi pour des touristes comme ça, ils viennent faire une journée d'activité avec nous, mais il y a quand même, s'il reste 5 jours, ils vont faire 3 ou 4 autres activités à côté, quoi.
Que ce soit pour vous soutenir ou pour vous réserver une journée ou une demi-journée de plein air sur un chien de traîneau, comment fait-on ?
Eh ben, il faut aller sur notre site internet Chien Traîneau Vercors. Là, vous aurez toutes les coordonnées pour nous joindre. Après, si vous souhaitez plus, si vous êtes curieux, si vous voulez plus nous suivre sur la course et puis sur toute la vie qu'il y a autour de notre activité, je vous conseille plus la page Facebook qui, elle, est plus vivante et qui parle de vraiment les chiens et notre activité avec les chiens en général.
Et de vos actualités.
Voilà. Et la page Facebook, donc, où c'est pareil, c'est Chien Traîneau Vercors.
Eh bien, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Sachez que Erdiwa et le Diwa sont de tout cœur avec vous, en espérant que vous gagniez. À bientôt.
À bientôt.
Merci.
Merci, merci Erdiwa.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.